Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue dans le numéro 101 de Famille, Justice, Enfance, l'émission d'études de la famille contemporaine et des conflits familiaux via le regard des pères depuis Périgueux dans le Périgord. Nous recevrons aujourd'hui en invité principal Monsieur Marc Juston, magistrat à la retraite, ex-juge des enfants, ex-juge des affaires familiales, ex-président du tribunal de Tarascon. Monsieur Juston est un homme d'expérience. Nous aborderons avec lui déjà la présentation de son parcours. Nous définirons ensemble qu'est-ce que l'autorité parentale, est-ce que la résolution des divorces dans les tribunaux, est-ce que c'est une bonne solution, qu'est-ce qu'il en pense avec son recul et sa vision de l'ensemble de sa carrière, qui a été assez longue. C'est l'intérêt de parler à des personnes expérimentées qui ont acquis une certaine sagesse, en fait, dans l'exercice de l'observation de nos contemporains sur plusieurs dizaines d'années et d'intervention au sein de leur famille. Nous nous apercevrons d'ailleurs avec surprise qu'il est assez critique lui-même sur la façon dont l'institution judiciaire résout les problématiques autour de nos séparations et de nos enfants. Mais auparavant, comme entrée en matière, je vous propose à peu près 3 minutes d'un extrait d'un reportage de TF1 passé sur 7 à 8. Il n'y a pas les images, mais le son suffira amplement à comprendre de quoi il s'agit. Ne bougez pas, c'est juste après ça.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
C'est une douleur que l'on voit rarement, elle est presque taboue. C'est celle de pères privés de leurs enfants après un divorce. Ils sont de plus en plus nombreux à ne pas pouvoir faire respecter leur droit de visite. Bernard a déposé 6 plaintes pour non-présentation d'enfants. Il tente de voir ses garçons par tous les moyens. Sans succès, le lien avec eux est presque totalement rompu. Reportage Paul Labrosse avec Eric Huelvent.
En ce matin de rentrée scolaire, Bernard est en route pour le lycée de son fils aîné, mais ce n'est pas pour l'accompagner.
Donc je vais essayer d'aller voir mon fils. Alors nous arrivons à son école et je ne sais même pas si je vais pouvoir le voir déjà, c'est déjà une première chose.
Il y a 2 ans, Bernard a quitté sa femme après 32 ans de mariage. Depuis, la guerre est déclarée. Au milieu, 2 enfants de 12 et 14 ans. Ils vivent mal la séparation. Le plus grand est en conflit avec son père. Bernard a bien un droit de visite, mais il n'a plus parlé avec son aîné depuis 1 an et demi. Aujourd'hui, il tient absolument à le voir pour la rentrée. Il sait qu'il n'aura que quelques secondes pour établir le contact. Le voilà, enfin, dans la voiture noire.
On regarde dans le vide. On ne le regarde pas.
Apparemment, son fils aussi l'a repéré. La voiture s'arrête plus loin. Il est avec sa mère. Bernard craint le pire. Nous filmons de loin la rencontre. L'adolescent étant mineur, vous n'entendrez pas sa voix.
Ah, t'as quand grandi ? Comment vas-tu ? Tu ne m'embrasses pas ? Pourquoi ? Hein ? Bah, tu peux embrasser ton papa, tu ne me vois pas souvent.
L'accueil est glacial. Son fils dit ne pas vouloir le voir.
Tu as des consignes de cette manière-là ? Hein ? Alors, je te souhaite une bonne rentrée au niveau du lycée, d'accord ? Au niveau de ta seconde. Hein ? J'espère que tu vas être avec des bons profs. Tu verras, c'est une école qui est superbe. Tu rentres en quelle section ? Hein ?
Face au rejet de son enfant, Bernard n'a pas masqué sa frustration. Il l'accompagne quand même à l'intérieur. Quelques heures plus tôt, il a aussi rencontré son fils de 12 ans devant son collège. Un moment plus chaleureux selon lui. Il dit lui avoir parlé. Il a même pris quelques photos avant que la mère des enfants n'intervienne. Elle n'aurait pas du tout apprécié sa démarche. Bernard en est persuadé. Sa femme aurait monté ses fils contre lui.
Ce que je n'admets pas, c'est qu'il y ait entre 2 adultes une histoire ou de la haine, c'est une chose. Ce qui n'est pas admissible, c'est que quelque part, des enfants soient pris en otage. Et je le vis très mal, ça. C'est une chose qu'un papa ne peut pas accepter.
Malgré nos demandes, la femme de Bernard n'a pas souhaité témoigner.
C'est l'occasion pour nous de rappeler ici aujourd'hui que chaque année, 1300 pères se suicident parce que leur demande légitime d'une relation suivie et pérenne avec leur enfant leur a été refusée. D'ailleurs, nous constatons que 20% des papas perdent le lien avec leurs enfants après le divorce et globalement, 40% des enfants de moins de 25 ans issus d'une union rompue ne voient leur père que rarement ou jamais, contre 15% leur mère. Alors, tout est sur le site SOSPapa24.com, les statistiques, tout est sourcé, nous avons, ce sont des choses que l'on peut démontrer. Le nombre des suicides est clairement sous-évalué parce que cela ne comprend que les suicides motivés, ceux qui se sont endormis au volant ou sont rentrés dans un platane, en voiture, sans justifier la raison de leur acte, ne rentrent pas dans ces statistiques. Alors pour répondre d'avance aux critiques éventuelles, nous rappelons que nous avons beaucoup de mamans qui sont aussi avec nous que des mamans qui ne voient pas leur enfant. C'est aussi insupportable qu'un papa qui ne voit pas ses enfants. Nous demandons le respect des droits parentaux, c'est juste que nous on s'exprime depuis ce que l'on est, sans demander aucun avantage. Mais voilà, cette réalité. La réalité, si vous voulez, existe, est présente et mérite que l'on s'en occupe.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
RLP 102.3, aujourd'hui avec Marc Juston que nous remercions beaucoup, qui est un ancien président de tribunal qui s'est ensuite mis dans la médiation familiale, si je ne m'abuse. Monsieur Juston, bonjour, vous allez bien ?
Bonjour, je vais bien, merci de votre invitation.
Ben merci beaucoup d'être venu. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter un petit peu, dire aux auditeurs qui vous êtes afin que nous ayons l'origine de votre voix, savoir effectivement qui parle pour ensuite justifier ce qu'on va se dire tous les deux par la suite.
Alors actuellement, donc je suis magistrat honoraire, c'est-à-dire que je suis magistrat à la retraite, mais j'ai une activité de formateur. J'interviens dans le nombre de formations concernant le droit de la famille et les modes amiables de règlement des différends. Et parallèlement, j'ai une activité aussi de médiateur, mais alors pas de médiateur familial. J'ai une activité de médiateur civil, essentiellement dans les problèmes de succession, de liquidation de communauté, de servitude, de construction. Donc je ne suis pas médiateur familial parce que je n'ai pas le diplôme d'État de médiateur familial et puis aussi... parce que j'ai beaucoup œuvré dans la justice familiale quand j'étais magistrat et que je ne me voyais pas forcément avoir une activité de médiateur familial dans le cadre des conflits familiaux. Donc, personnellement, j'ai commencé ma vie professionnelle comme attaché de préfecture, très jeune, à 20 ans. J'ai poursuivi mes études tout en étant attaché de préfecture et rapidement, parce que j'ai toujours voulu être magistrat, j'ai passé le concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Je suis rentré vers 23 ans, à 23 ans. Et j'ai eu ensuite, une fois que je suis passé par l'École nationale d'administration, j'ai eu comme première activité la fonction de juge des enfants. C'est certainement une des fonctions qui m'a le plus passionné parce que s'occuper des enfants en protection de l'enfance, c'est délicat, c'est passionnant et on peut voir l'évolution des enfants à travers les mesures que le juge des enfants peut prendre. Ensuite, vous savez que les magistrats sont obligés d'être polyvalents. Donc je suis parti dans une autre juridiction, j'étais juge civiliste, je m'occupais des problématiques de contrat, je faisais du droit, problèmes de malfaçon, les problèmes de servitude de passage et d'autres types de contentieux. Puis ensuite je suis allé dans une cour d'appel à Nîmes, cour d'appel de Nîmes, où j'ai eu comme activité principale pendant 3 ans et demi, celle de président de la cour d'assises, du Gard et cour d'assises du Vaucluse également. Et je dois reconnaître que cette activité de président de cour d'assises m'a beaucoup apporté, parce que je me suis rendu compte, notamment, qu'à partir du moment où on informait les jurés, qu'on essayait de former les jurés à la capacité de juger, les jurés étaient en capacité de prendre des décisions. C'est un peu comme la médiation. Quand on donne la parole aux personnes, les personnes sont en capacité de décider pour elles-mêmes, par elles-mêmes, pour elles-mêmes. Et la présence de la cour d'assises m'a démontré qu'effectivement, si on donne cette possibilité à des citoyens, ils sont en capacité de prendre des décisions tant sur la culpabilité que sur la peine. C'est vrai que si on ne les informe pas, si on ne les forme pas, ces personnes ne sont pas en capacité de prendre des décisions par elles-mêmes. Puis enfin, j'ai présidé une juridiction sur la fin de la vie professionnelle. Je suis toujours resté dans cette juridiction, le tribunal de Tarascon-Arles, où j'ai exercé principalement l'activité de juge d'affaires familiales. C'est une activité qui m'a passionné, essayer de faire évoluer les personnes dans le conflit, essayer de faire en sorte que les personnes se divorcent à l'amiable, en bonne intelligence, en parents responsables. Et c'est à cette époque-là que j'ai essayé de travailler sur la médiation familiale, mais sur la médiation en général, de manière à ce que les personnes prennent en charge leur séparation, leur divorce, et essayent de réfléchir à l'avenir de leur enfant dans le cadre de leur séparation, dans le cadre de leur divorce, J'ai beaucoup œuvré dans le sens de la médiation familiale, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup participé à des colloques, à des interventions. J'ai même présidé un groupe de travail à la demande d'un ministre de la Famille, Madame Bertinotti, qui m'avait sollicité pour créer un groupe de travail, pour réfléchir à un groupe de travail sur la médiation familiale et la coparentalité. Et il faut reconnaître que c'est ce groupe de travail qui s'est réuni il y a 7 ans maintenant. Toutes les mesures qui ont été envisagées, proposées dans le cadre de son groupe de travail ont finalement été, pour l'immense majorité, adoptées et la loi les a reprises en compte, notamment la TNFPO, la médiation familiale, dans tous les aspects. Le législateur a repris toutes ces mesures. Donc, vous voyez, j'ai eu une activité très diversifiée, très diverse, avec des fonctions diverses. Les activités qui m'ont le plus passionné, c'est celle de juge des enfants, au début de ma vie professionnelle, et celle de juge d'affaires familiales à la fin de ma vie professionnelle. Et j'ai beaucoup investi dans les fonctions de JAF, et avec toujours la même problématique, penser d'abord à l'enfant, comment faire pour que les enfants puissent avoir accès à leurs deux parents dans le cadre des séparations, dans le cadre des divorces, comment faire en sorte que les enfants soient un peu éloignés du conflit conjugal et que les enfants puissent avoir une jeunesse, une enfance acceptable et puissent avoir accès à leurs deux parents. Encore une fois, ce que je voulais dire aussi en introduction, c'est que je crois que le juge est là pour appliquer la loi. Et moi, quand je vois tous ces conflits parentaux, tous ces conflits du monde de la séparation et du monde du divorce, je dis, il y a une loi qu'il faudrait peut-être qu'on applique un peu mieux dans notre société. C'est la loi sur l'autorité parentale, l'autorité parentale. Conjoint, ces deux parents doivent être traités à égalité, un père égale une mère égale un père. Il n'y a pas de parent supérieur, il n'y a pas de parent inférieur. Et les parents doivent être traités à égalité et doivent pouvoir élever leurs enfants à égalité, quel que soit le conflit, quels que soient les modes de résidence. Voilà.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Donc, Monsieur Juston, Marc Juston, vous avez été juge des enfants, vous avez été juge d'affaires familiales, vous avez donc une expérience en tant que magistrat de tout ce qui se passe dans un tribunal, tout le processus judiciaire. C'est intéressant parce que ça correspond exactement à l'environnement qui nous intéresse. Donc, première grande question, qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que praticien qui a exercé durant un certain temps, de la judiciarisation des conflits familiaux en France? Est-ce que c'est vraiment bon d'aller dans un tribunal lorsqu'on se sépare? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça fait aux familles? Dites-nous.
Alors, je ne vous cacherai pas que j'ai été magistrat plus de 40 ans, que le discours où je tiens actuellement, c'est qu'il faudrait éviter que les personnes judiciarisent leur séparation. Donc moi, je pense que dans le cadre des séparations ou des divorces, il serait bon dans un premier temps de faire en sorte que les personnes se séparent à l'amiable, en utilisant notamment la médiation familiale, et que ce soit uniquement les séparations et les divorces qui ne peuvent pas être réglés à l'amiable, et les personnes ont le droit de faire en sorte que ça ne soit pas traité à l'amiable, ce serait uniquement les dossiers conflictuels qui ne pourraient pas être traités à l'amiable qui seraient judiciarisés. Et c'est vrai que de par mon expérience, je constate qu'il y a presque les deux tiers des dossiers qui sont déconflictualisés, ou du moins qui ont l'impression d'être déconflictualisés, et qu'il y a un grand tiers de dossiers qui sont conflictualisés. Ça permettrait, si le système fonctionnait comme ça, que le tiers conflictualisé soit vraiment regardé de près, examiné de près, que les magistrats aient le temps de s'occuper de ces dossiers difficiles, conflictuels, alors que actuellement, la plupart des magistrats, la plupart des JAF sont pris par la quantité de travail, et c'est une évidence, quand on, vous savez que la durée d'une affaire, il y a une étude qui a été faite il y a quelques temps, la moyenne c'est 11 minutes par dossier à l'audience, c'est pas satisfaisant, mais le problème c'est que les magistrats ne peuvent pas avoir le temps de consacrer plus de disponibilité à l'étude des dossiers, tout simplement parce que des audiences à 15-20 dossiers, ce n'est pas une audience telle qu'en Allemagne par exemple, un JAF, il a 3 dossiers par audience. Donc, ce qui manque réellement à notre système judiciaire actuellement, c'est du temps pour que le juge puisse écouter les personnes, essayer d'analyser bien leur situation et pense à l'intérêt de l'enfant, à protéger l'enfant et à écouter les personnes plutôt que de faire du quantitatif. Et je pense que si on déconflictualisait l'immense majorité des séparations, le juge aurait le temps de s'occuper réellement des dossiers qui sont difficiles. Voilà. Donc moi je suis... c'est pas une mise en cause des magistrats, attention, c'est une mise en cause plutôt du système judiciaire judiciaire qui n'a plus les moyens actuellement de s'occuper d'une manière digne pour les personnes du nombre de dossiers qui lui est soumis en termes quantitatifs. Voilà.
D'accord, donc en fait là nous avons un point commun parce que nous militons aussi nous pour la déjudiciarisation des conflits lorsque c'est possible, effectivement. Par contre, effectivement, si vous voulez l'association, le tissu associatif lui existe et se place dans les cas où ça se passe mal. Si ça se passait bien, effectivement, nous n'existerions pas. Et dans les cas où ça se passe mal, effectivement, le tribunal a son importance. Et comme vous l'avez dit, parfois, il n'a pas les moyens de son importance. Est-ce que vous avez eu l'impression, vous, durant votre exercice, que ce système privilégiait le conflit, que le fait d'être dans un tribunal faisait que peut-être des gens qui auraient pu s'entendre, eh ben, finalement, ne s'entendaient plus?
Personnellement, j'en suis convaincu. Je suis de ceux qui pensent que le système judiciaire très souvent aggrave le conflit plus qu'il ne le fait disparaître. Parce que, bon, dans un système judiciaire, chacun a sa version, chacun a son mode de fonctionnement, et bon, c'est à celui qui a... On raisonne en termes d'adversaire et non pas en termes de partenaire. Directement, les parents sont partenaires en vue de militer pour les enfants. Or, dans le système judiciaire conflictuel, les parents sont à l'intérêt de leur enfant. Et très souvent, au lieu de trouver un système amiable, commun, une solution commune, chacun reste sur ses positions et au lieu de calmer la situation, ça aggrave les situations. Et ensuite, la décision du magistrat, à partir du moment où le système judiciaire a aggravé les situations, a du mal à faire en sorte que les décisions qu'il prend soient bien acceptées par les personnes. Moi, je distingue vraiment dans une situation de séparation ou de divorce, je distingue le conflit et le litige dans un différend. Le litige, c'est ce qui est demandé au juge, statuer sur l'autorité parentale, la résidence, le droit de visite, la contribution. Mais le conflit, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les souffrances des personnes, les non-dits, les violences entre de quelque type qu'elles soient. Et tout ça, ça ne peut pas être réglé par la décision prise par le juge. Et pour que justement une décision d'un juge soit bien vécue, encore faut-il que le conflit ait pu être travaillé. Si le juge se contente, et malheureusement, trop souvent, il est obligé de le faire comme ça, de prendre une décision, il oublie le principal, c'est-à-dire le conflit. Je compare souvent le système judiciaire à un travail d'un architecte. Si l'architecte se contente de construire une maison sans penser aux fondations, la maison ne tiendra pas. Si par contre, l'architecte pense fondation avant de penser construction de l'immeuble, ben la maison tiendra et sera solide. Les fondations, c'est le travail sur le conflit. Comment faire en sorte que les personnes essayent de réfléchir à leur conflit pour qu'une décision prise sur le litige puisse être bien vécue, bien acceptée par les personnes, et tout ça dans l'intérêt de l'enfant.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Alors, comment fait-on lorsque véritablement il y a conflit, que les gens s'écharpent et s'étripent, que ce soit pour les pensions alimentaires ou pour les enfants? Parce que la médiation, c'est bien, mais comment on fait lorsque vraiment c'est la guerre des tranchées? Vous faites comment?
Je crois que l'idéal, et moi je l'ai constaté en tout cas dans mon ancienne juridiction, c'est de penser au conflit et à la médiation dès le départ de la séparation. Il ne faut surtout pas qu'un conflit s'enquiste, dure, perdure et qu'on ne fasse rien. Je vous cacherai pas qu'à partir du moment où le conflit est à son paroxysme, le juge est complètement démuni. Ça, la médiation familiale pourra difficilement trouver un terrain d'entente, faire en sorte que les personnes essayent de discuter. L'idéal dans une situation de séparation et de divorce, et nombre de couples n'y pensent pas parce qu'ils sont en souffrance, il faut respecter cette souffrance, nombre de couples ne pensent pas dès le départ à essayer de réfléchir ensemble dans le cadre d'un dialogue apaisé et réfléchir à leur souffrance, d'une part, et réfléchir à leur enfant. Je crois que c'est vraiment ce qui manque dans notre système judiciaire, c'est penser d'abord au conflit avant de penser au litige. Et il est vrai qu'à partir du moment où le conflit s'est vraiment installé, s'est vraiment enquisté au sein d'une séparation, la médiation familiale aura du mal à travailler. On est dans des situations d'emprise, de conflit de loyauté, dans des situations d'aliénation parentale. Et là, il faut utiliser d'autres outils, mais je vous garantirai pas, en utilisant d'autres outils, on n'est pas performant, hein, parce que très souvent, le travail a été commencé trop tard et que s'il y a un des deux parents qui n'a pas envie de travailler et qu'il a, par exemple, la résidence de l'enfant, quoi que vous fassiez, les décisions auront du mal à être exécutées. C'est vraiment notre système. Moi, je suis de ceux qui pense que dès que les personnes se marient ou vivent ensemble dans le cadre d'un pacte ou non, ou déclarent la naissance d'un enfant, il faudrait préparer les personnes, les couples, à la séparation et au divorce. Vous voyez, j'en suis là, compte tenu du nombre de divorces et de conflits parentaux, quand on voit ce qui se passe sur les enfants aussi, parce que bon, c'est les parents qui souffrent, c'est terrible, mais les enfants qui souffrent, c'est très souvent irrécupérable pour leur vie, ils vivront toujours avec cette souffrance. Et si on préparait, si on informait dès la naissance, dès la composition du couple, dès le mariage ou dès le pax, les parents sur les conséquences, sur une manière de séparer à l'amiable dans l'intérêt de leurs enfants qui s'aiment, c'est vrai que ça paraît difficile de penser séparation quand les parents sont en plein bonheur, en plein mariage ou en pleine naissance de leur enfant. Mais je crois que ce serait une nécessité dans l'intérêt des couples, des parents et surtout dans l'intérêt de l'enfant.
Oui, mais c'est une demande que j'ai vue passer, effectivement, lors des rencontres associatives, à l'Assemblée ou autre. C'est une préparation à la parentalité. Nous sommes une société de recomposition. Et la parentalité, ça signifie se préparer à quand ça va bien et aussi quand ça ne va pas bien.
Tout à fait. Voilà. Comment concevoir le rôle des parents quand ça va mal, alors qu'on est bien ensemble et que ça se passe bien.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Marc Juston, avec nous sur RLP 102.3 FM, dites-nous, la médiation en fait, qu'est-ce que la médiation? Parce que derrière ce nom, cette attribution, cette fonction, il y a plein de définitions différentes, mais qu'est-ce que l'on fait vraiment dans une médiation familiale? Ça sera la première question, avantages et inconvénients de la médiation, et après on essaiera d'aller regarder ce que l'on peut faire lorsque l'un des deux parents la refuse, mais déjà on va la définir. Qu'est-ce que la médiation familiale?
Pour moi, la médiation familiale doit être définie par ses objectifs. Le premier objectif, c'est de permettre aux parents de réfléchir, de dialoguer entre eux dans leur intérêt, dans l'intérêt d'une séparation amiable et surtout dans l'intérêt de leur enfant. Et le second objectif, c'est comment faire en sorte que cette séparation se passe de bonnes conditions pour les enfants en pensant à la coparentalité, comment concevoir la coparentalité, réfléchir à la coparentalité à partir du moment où il y a une séparation. Vous voyez, c'est vraiment dialogue et réflexion à la coparentalité. Et ce qui m'amène surtout à la médiation, je ne vous cacherai pas, c'est que j'ai le sentiment que nombre de parents et nombre d'institutions aussi ignorent complètement ce qu'est l'autorité parentale conjointe. Pour moi, la médiation familiale permet aux parents de réfléchir à une notion phare dans l'intérêt des parents et dans l'intérêt de l'enfant, c'est l'autorité parentale conjointe, c'est la coparentalité. C'est la loi de 2002 qui a été adoptée à l'unanimité par les parlementaires. Mais cette loi est complètement inconnue, méconnue. Il y a une confusion la plupart du temps chez les parents entre autorité parentale et résidence. Celui qui a la résidence estime avoir tous les droits sur l'enfant. Or non, l'autorité parentale est conjointe. Qu'est-ce que c'est que l'autorité parentale? Et pour moi, c'est ça la médiation familiale. Essayer de permettre aux personnes de réfléchir à la notion d'autorité parentale, même droit, même devoir. Il n'y a pas un parent supérieur et un parent inférieur. Les parents doivent être traités à égalité de droits et de devoirs. Et comment donc réfléchir à cette autorité parentale, à cette égalité de droits et de devoirs? Malheureusement, dans notre société, nombre d'institutions ne respectent pas l'autorité parentale, à commencer par nombre d'établissements scolaires, nombre de spécialistes, qu'ils soient psychologues ou médecins, qui privilégient tel parent, qui sont capables d'engager une psychologie concernant un enfant sans prendre attache, par exemple, avec les deux parents, qu'un des parents engage simplement une thérapie pour l'enfant. Je crois que vraiment distinguer les actes essentiels, importants de la vie de l'enfant et les actes usuels. Qu'est-ce que c'est qu'un acte important et essentiel de la vie de l'enfant par rapport aux actes usuels? Et à partir du moment où les parents sont en capacité de réfléchir dans un endroit neutre tel que la médiation familiale sur ce qu'est l'autorité parentale et qu'est-ce que c'est qu'un acte important, qu'est-ce que c'est qu'un acte usuel, les parents sont en capacité après d'essayer de réfléchir à l'intérêt de leur enfant. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je suis intervenu il y a quelque temps avec des directrices de crèche. Je leur demandais, je leur ai indiqué, est-ce que pour vous, l'inscription d'un enfant dans une crèche est un acte usuel ou un acte important de la vie de l'enfant? Toutes les directrices de crèche m'ont dit, c'est un acte important de la vie de l'enfant. D'accord. Et je leur ai posé la seconde question, je leur ai dit, quand un enfant est inscrit à votre crèche, est-ce que vous demandez que cette inscription soit faite par l'un des deux parents ou par les deux parents? 80% m'ont répondu, c'est un des deux parents qui inscrit l'enfant en crèche. Donc vous voyez, on reconnaît c'est un acte important, mais on me dit, ça va être difficile. Je dis oui, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où vous inscrivez l'enfant, celui qui inscrit l'enfant a tous les droits sur l'enfant, et l'autre est un parent accessoire. Ah, ça va compliquer notre activité. Oui, mais c'est aussi l'intérêt de l'enfant. Comment concevoir des parents égalité de droits et de devoirs? Alors, je vous parle des crèches, là, mais je pourrais vous parler de nombre d'institutions, nombre de professionnels, à commencer par le gouvernement récemment pour le Covid, qui a décidé que, le vaccin.
Un seul parent pour le vaccin.
Un seul des parents, mais
ça a généré une quantité de conflits absolument impressionnante.
On a pris cette décision, après on est revenu dessus, puis après on est encore revenu dessus. Je dis, mais c'est une méconnaissance de ce qu'est l'autorité parentale, et surtout, c'est une méconnaissance des enjeux du non-respect de l'autorité parentale à partir du moment où une séparation.
Part. Il y en a qui se sont étripés sur ça.
Exactement, exactement. Et la religion, par exemple, moi, dans mon ancien ressort, il y avait beaucoup de baptêmes laïcs, mais il y a nombre de parents qui baptisaient leur enfant laïquement sans l'autorisation de l'autre parent. Alors, on me saisissait de temps en temps, mais une fois que le baptême laïque avait eu lieu, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est un peu tard, hein. Alors que bon, l'idéal, c'est que si les parents sont pas d'accord, sont en désaccord sur l'inscription d'une crèche, que la directrice de crèche dise, bon, écoutez, allez discuter en médiation ou avec un autre professionnel, pas seulement la médiation familiale, mais un professionnel qui vous permette de réfléchir à ce qui est l'intérêt de l'enfant. Est-ce qu'il est important pour l'enfant qu'il aille dans une crèche, qu'il aille chez une nounou, ou qu'il aille chez un grand-parent maternel ou paternel ou une autre solution? Mais ça commence par là. Ah oui. Alors, il y en a une directrice de crèche qui me disait, mais vous savez, quand les couples sont ensemble, ça pose pas de problème. Oui, ça pose peut-être pas de problème pendant la vie du couple, mais une fois que le couple sera séparé, ça posera un problème. Donc, il vaut mieux commencer l'inscription de l'enfant par les deux parents, même quand le couple est bien ensemble et marié et semble vivre une bonne
parentalité. Ah bah oui, c'est évident.
C'est vraiment des notions qu'il faut, parce que nombre de parents qui viennent devant le JAF, nombre de parents qui ont la résidence, ils pensent avoir tous les droits. Il ne parle pas en termes d'autorité parentale. Alors que bon, cette autorité parentale, je dis, c'est une loi de 2002, c'est Ségolène Royal à l'époque, mais c'est pas la problématique de Ségolène Royal, parce que tous les parlementaires, qu'ils étaient soit de droite ou de gauche, avaient voté cette loi.
Ah, à l'unanimité, tout le monde avait voté. Il y a la loi et l'esprit de la loi, il faut consulter les deux.
Oui, c'est ça. Et le problème, c'est qu'actuellement, on n'applique pas la loi telle qu'elle est. Et je vous dis, l'exemple du Covid par le gouvernement, moi j'étais atterré, je me dis, mais comment voulez-vous faire respecter par des parents cette loi si l'autorité gouvernementale ne la respecte pas, même si c'est pour des soucis de simplification, de santé publique, mais bon, il y a quelque chose là qui posait réellement problème. On s'en fout. Et après, on se rend compte que bon, l'un des deux parents est écarté, et puis il va être écarté pour d'autres points. L'important, c'est de faire en sorte que les deux parents ne soient pas écartés, qu'ils aient accès à leur enfant à égalité. Et c'est dès le départ qu'il faut le faire. Parce que dès qu'une rupture est faite, après, c'est l'engrenage. Et le parent qui a la résidence et qui estime avoir tous les droits va éliminer l'autre sans grande difficulté avec le soutien des institutions.
Tout à fait. Vous êtes en train de nous dire que comme dans la majorité des problématiques judiciaires, en fait, ce sont les premiers instants, les premiers jours, les premières semaines qui sont cruciales dans la résolution des problèmes.
Ah mais vous savez, pour un enfant, on dit que l'enfant structure pendant les 6 premières années. Moi, je dis qu'une séparation et un divorce, c'est pendant les 6 premiers mois. Si les 6 premiers mois se passent bien, ça roulera. Si ça se passe mal, si c'est toujours conflictuel, le judiciaire, il pourra mettre des petites rustines, mais il ne protégera rien du tout. L'enfant ne sera pas protégé, la coparentalité ne sera pas respectée. Les parents partiront au combat, et je vous dis, ça concerne globalement un tiers des procédures de séparation et de divorce. Mais en même temps, quand on voit les divorces par consentement mutuel, très souvent, les parents se sont partagés les meubles et se sont partagés les enfants de la même manière. Et très rapidement, parce que le conflit n'a pas été travaillé, parce que les parents ont voulu divorcer rapidement, et bien les conflits surgissent et le JAF est saisi pour intervenir. Mais c'est toujours trop tard, là, vous voyez. C'est dès le départ qu'il faudrait amener les parents qui sont en conflit, qui veulent se séparer, à aller réfléchir. Et encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, y penser dès que le bonheur est là, c'est-à-dire le mariage, la naissance, tout ça. Penser séparation alors qu'on est en plein bonheur. C'est dramatique de dire ça. Mais en même temps, ça serait très utile compte tenu du nombre de divorces et des incidences sur les enfants.
Non, c'est une idée qui existe, qui a été propagée, qui a été présentée d'ailleurs dans les divers travaux qu'on essaie de relayer ici à la radio. On appelle ça, nous, la préparation à la parentalité.
Tout à fait.
Et la préparation à la parentalité contient aussi la responsabilisation des conséquences sur l'enfant, des événements de la vie.
Attention, moi je veux pas une formation à la parentalité, mais je veux
non, mais la manière que c'est si vous voulez, une maman qui va accoucher à une préparation, on va lui expliquer voilà, ce qui va se passer et autres. Et bien peut-être qu'un couple, en incluant le père d'ailleurs, et dire voilà, il y a un être humain, un être vivant qui arrive, ça signifie ceci et cela dans telle et telle circonstance également. Il faut
une information laïque sur ce qu'est la coparentalité.
Absolument, tout à fait.
Quand le couple existe et quand le couple est bien.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.